Sonia Bacasse, invitée de Transparence ce midi, elle est notamment revenue sur la séquence de discussion bilatérale qui s'est tenue à Paris la semaine dernière. Extrait à suivre dès le début de ce journal. Dans ce journal, une nouvelle page spéciale rentrée. Lundi, ce sont 62 660 élèves qui retrouveront leur établissement scolaire. Coup de projecteur ce soir sur la rentrée en province des îles. Nous reviendrons également sur la rentrée des professeurs. C'était aujourd'hui une pré-rentrée importante après une année scolaire 2024 très perturbée. L'indice des prix à la consommation encore en hausse. En janvier, les prix ont augmenté de 0,7% après une hausse de 0,6% en décembre dernier. Les détails dans ce journal. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie lance un appel à volontaires pour intégrer la réserve sanitaire locale. Médecins, infirmiers, kinés, sages-femmes et chirurgiens-dentistes, tous les profils sont recherchés. Et puis le sport et le cyclisme, une première médaille internationale pour le pistard Kéril Moutry. Il a remporté hier une médaille de bronze dans la course au point aux Océania qui se dispute à Brisbane. Et soyez les bienvenus dans ce journal. Sonia Bacasse n'attendait pas grand-chose des discussions bilatérales qui se sont déroulées la semaine dernière à Paris et elle regrette qu'il n'y ait pas eu de rencontre à Troyes. Revenue hier soir sur le territoire, elle était ce midi l'invitée d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence, Jean-François Bodin.
Sonia Bacasse conduisait la délégation loyaliste pour ces discussions bilatérales avec l'État et elle fait le constat que les indépendantistes UCF-LNKS ne veulent pas parler à leurs partenaires calédoniens, mais elle estime ce déplacement utile parce qu'il a permis aux loyalistes et au rassemblement de présenter à l'État leur projet de fédéralisme interne. Elle a d'abord été interrogée sur la petite phrase de Manuel Valls qui a suscité une certaine émotion en Nouvelle-Calédonie. Dans un article du journal Le Monde, le ministre des Outre-mer déclare que la trajectoire est celle qui va d'une souveraineté partagée à une souveraineté pleine et entière. Sonia Bacasse regrette deux choses concernant cette déclaration.
D'abord, je regrette qu'il n'ait pas dit ça quand on l'a vu. Il a dit des choses qui nous ont plu, d'autres moins, mais il n'a pas dit ça. Je le regrette parce que je pense que c'est toujours dommage de dire à la presse des choses a posteriori qui n'ont pas été dites aux délégations, en tout cas pas à la nôtre. Et ensuite, je regrette cette lecture de l'accord de Nouméa qui n'est absolument pas conforme à l'accord de Nouméa. L'accord de Nouméa, il dit qu'effectivement, on a une trajectoire qui est effectivement celle de la souveraineté partagée, mais cette trajectoire, elle s'arrête sur les trois référendums. Et en fait, il est très clairement dit dans l'accord de Nouméa que la réponse positive, donc un oui à l'indépendance, équivaudrait, je cite, à la pleine souveraineté. A contrario, il n'est pas question de pleine souveraineté dès l'instant où les Calédoniens ont décidé de dire non à l'indépendance. Donc cette phrase de Manuel Valls qui sous-entendrait que l'accord de Nouméa mène inéluctablement à la pleine souveraineté est fausse.
Et la chef de file des loyalistes dénonce ce qu'elle appelle les ambiguïtés de l'État.
Moi, je suis fatiguée des ambiguïtés permanentes qui sont utilisées par les représentants de l'État pour essayer d'hameçonner les indépendantistes, de leur faire plaisir. Je rappelle que c'est quand même une partie de cette délégation qui a été à la tête de ceux qui ont tout cassé le 13 mai. Ces ambiguïtés, elles nous ont amenés à ça. Et d'autre part, encore une fois, on a décidé de rester français. Les trois référendums ont été reconnus par les instances nationales, internationales. Et donc, désormais, il n'est pas question de continuer sur ces ambiguïtés.
Sonia Bacasse qui tient à préciser que le président de la République qu'elle a rencontré est très clair sur sa volonté de maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la République et que c'est aussi la position de Sébastien Lecornu, de Gérald Darmanin ou encore de Gérard Larcher et de Yaël Braun-Pivet. Et elle explique aux Calédoniens qu'il ne faut pas se faire peur.
Imaginons le pire. Imaginons Manuel Valls a décidé de larguer la Nouvelle-Calédonie et veut nous amener à l'indépendance. Mais il ne le pourrait pas. Il ne le pourrait pas parce que pour arriver à larguer la Nouvelle-Calédonie, eh bien, il faudrait à minima un nouveau référendum. Et pour avoir un nouveau référendum, il faut une modification de la Constitution. Et les Calédoniens, maintenant, savent bien comment on modifie la Constitution. Il faut l'accord du Sénat, qui est à majorité à droite, et l'accord de l'Assemblée. Et vu ce qu'il y a à l'Assemblée, jamais l'Assemblée ne vote une réforme constitutionnelle sans un accord en Calédonie pour faire un nouveau référendum dont tout le monde sait qu'il amènerait à de nouvelles violences. Donc, même si, et je pense objectivement que c'est même pas le cas, c'est-à-dire que je pense que Manuel Valls ne veut pas larguer la Nouvelle-Calédonie, je pense simplement qu'il utilise des ambiguïtés sémantiques, des ambiguïtés en utilisant des mots qui font plaisir aux indépendantistes, en espérant que ça les ramène sur le chemin du dialogue. Mais c'est un leurre.
Pour autant, Sonia Bacasse dit comprendre et partager le ras-le-bol des Calédoniens, mais elle souligne que les partisans de la France ne pouvaient pas être absents de ces discussions. Elle affirme que Manuel Valls a été ouvert au projet de fédéralisme interne et qu'il a posé beaucoup de questions. Elle s'agace, en revanche, des propos d'Emmanuel Tchibaou qui s'en est pris violemment à ce projet en parlant d'apartheid.
Je ne sais même pas si c'est ce qu'il y a dedans, pourtant on en a parlé. Bon, je pense qu'il récupère des éléments sémantiques, des éléments de langage pour essayer de discréditer notre projet, comme s'il n'y avait que le leur finalement. De toute façon, il refuse tout simplement de prendre en compte l'existence même de ce qu'on porte. Vous savez, déjà, et je l'ai dit à Emmanuel Tchibaou, qui était présent quand on a rencontré le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée, la première des choses c'est d'accepter de parler avec nous. S'ils reconnaissent notre légitimité, notre présence et la volonté de vivre ensemble, puisque c'est ce qu'ils portent, hein, parce que Emmanuel Chibaou, il porte devant l'État ce que l'État a envie d'entendre et devant la CCAT ce que la CCAT a envie d'entendre. Donc devant l'État, il dit le vivre ensemble, etc. Mais le premier acte du vivre ensemble, c'est peut-être de parler avec nous. Et pour l'instant, il refuse de parler avec nous.
Mais s'il a été impossible de parler avec l'UCFLNKS sous prétexte que sa délégation n'avait pas de mandat pour cela, Sonia Baquès relève que c'est différent avec l'UNI qui met beaucoup de bonne volonté.
L'UNI souhaitait faire une plénière, avec ou sans l'Union calédonienne d'ailleurs, hein, mais l'UNI souhaitait faire une plénière, l'UNI met beaucoup de bonne volonté à trouver des points d'accord, et l'UNI prend en compte notre projet, notre présence, fait le même effort que celui qu'on fait nous, c'est-à-dire d'essayer de se mettre à la place de l'autre pour essayer de voir ce qui pourrait permettre de trouver un accord. C'est comme ça qu'on pourra trouver. Et avec l'UNI, on arrive à faire cet exercice-là.
Et dans ce contexte, malgré les tensions et les divergences, Sonia Baquès pense qu'un accord est possible.
Aujourd'hui, si on regarde l'état des choses, tout le monde le souhaite, sauf l'Union calédonienne. Donc, si l'Union calédonienne fait évoluer son mandat et sa position et cherche un accord, il est possible cet accord. Maintenant, s'il n'est pas possible parce que l'UC ne le veut pas, il faut que l'État prenne ses responsabilités et présente un projet d'avenir qui concilie nos désaccords. Je crois que toutes les méthodes, tous les interlocuteurs ont été testés et ont testé la possibilité de trouver un accord. Bon, s'il est possible, tant mieux. Et évidemment, cet accord ne pourra pas se faire sans nous, donc on en fera partie, évidemment. Mais s'il n'y a pas d'accord, à un moment donné, l'État doit prendre ses responsabilités et doit dire comment les 280 000 habitants qui vivent en Nouvelle-Calédonie peuvent continuer à vivre, continuer à s'épanouir, à vivre en paix, à avoir un développement économique, à avoir des élections sans accord. C'est ça l'enjeu.
Interrogé sur la prochaine venue de Manuel Valls, Sonia Baquès espère que le ministre des Outre-mer aura l'occasion de voir de vrais gens lors de sa visite. Elle annonce par ailleurs que les loyalistes et le Rassemblement rendront compte de ce déplacement à Paris mercredi soir lors d'une réunion publique au Méridien.
Une interview de Sonia Baquès qui sera rediffusée dans son intégralité. Ce sera dimanche soir, juste après notre édition de 17h45. Vous pouvez également, vous le savez, la retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site internet rrb.nc. Il est 17h et pratiquement 55 minutes. On va marquer une première pause dans ce journal. Vous restez avec nous dans un instant. On parle de la rentrée scolaire, J-3.
Mais chérie, t'as pas fait à manger ?
Non.
Oh, mais t'avais dit que tu t'en occupais.
J'ai pas cuisiné, mais j'ai prévu. Je suis passé à la maison du pain.
Ah, leur vrai fait salade. J'adore.
Et maintenant, ils font les plats du jour, toute la semaine. Pratique pour le midi et même pour le dîner si t'as pas envie de cuisiner.
Retrouvez toutes nos actualités sur la page Facebook du complexe Le 4, situé au 186 rue Jacques-Yécaoué, Le 4. Faites vos courses autrement.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite d'info soir, Lionel Sabot.
Et J-3 donc avant la rentrée scolaire en Nouvelle-Calédonie. Lundi, ce sont 62 660 élèves qui retrouveront le chemin des écoles, collèges et lycées partout sur le territoire.
Suivez les pages rentrées avec Bureau Vallée.
La rentrée a pris fou, c'est chez Bureau Vallée Magenta. Le sac à dos Eastpak Padded Packer est à 5 900 francs. Et pour une rentrée encore moins chère, Bureau Vallée rachète votre ancien cartable en bon état jusqu'à 1 500 francs en bon d'achat. Offre valide jusqu'au 17 février 2025.
Bureau Vallée. On met la barre très haut et les prix très bas.
Il y a quelques jours de cette rentrée scolaire 2025, Isabelle Chamborro, membre du gouvernement en charge notamment de l'enseignement, tenait une conférence de presse ce matin pour présenter cette rentrée scolaire 2025, rentrée un peu particulière après une année scolaire 2024 qui aura bien évidemment été marquée par les émeutes débutées au mois de mai dernier. À trois jours du retour des élèves, mais aussi de l'ensemble de la communauté éducative dans les différents établissements scolaires, tout est prêt afin que cette rentrée 2025 se déroule dans les meilleures conditions possibles. Pour les enfants, pour les enseignants, pour l'ensemble des personnels, mais aussi pour les parents d'élèves. Écoutez Isabelle Chamborro.
De manière générale, on est assez serein, à la fois, et je pense que les familles sont très attentives au climat sécuritaire. On a eu des réunions sur le sujet avec l'État, mais il n'y a pas d'alerte particulière. Il y a une vigilance qui est classique et les familles pourront voir, et nos personnels aussi, soit les gendarmes, soit la police nationale, qui fera des rondes dans les quartiers, qui sera présente et disponible. Ça, je crois que c'est un point important, mais pas d'alerte en termes de sécurité. Et puis ce qui est important aussi, c'est que chaque élève, que ce soit dans le primaire ou dans le secondaire, aura une place en classe, lundi et aura devant lui ou devant elle un professeur en classe. Nous n'avons pas de défection, que ce soit dans le primaire, dans le secondaire, sur les professeurs et non plus sur nos chefs d'établissement. Tout le monde est en poste.
Ce matin, Isabelle Chamorro était accompagnée pour cette conférence de presse de Didier Vindatich, le vice-recteur, de Christelle Varnet, la directrice de l'enseignement de la Nouvelle-Calédonie, de Yannick Lérand, la directrice de la maison de l'étudiant à l'Université de la Nouvelle-Calédonie, et de Pragash Eganadan, le directeur adjoint de la DEFE. C'est la direction du service d'État de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement, une direction gérée à la fois par l'État et par la Nouvelle-Calédonie, qui en charge l'enseignement agricole.
Les effectifs sont maintenus. Nous sommes plutôt dans une stabilité depuis 2012, je dirais. Ça fluctue un peu. Et là, cette année, alors il y a aussi des surprises sur l'enseignement privé. Nous sommes à 95 élèves. Alors que l'année dernière, nous étions à peine à 70 élèves. Donc ce qui fait que c'est quand même plutôt bon signe. Maintenant, cette année, il va falloir qu'on arrive, qu'on mette l'accent sur l'apprentissage et la consolidation des acquis qui n'ont pas pu être malheureusement terminés l'année dernière.
Et parmi les grands objectifs de l'enseignement agricole cette année, tendre vers l'excellence dans l'ensemble des établissements scolaires. On retrouve Pragash Eganadan.
L'idée, c'est de pouvoir doter chaque établissement d'une section d'excellence avec une ouverture à l'international. Actuellement, les élèves à Noatou sont... Donc on a une coopération internationale qui existe, mais on peut l'accentuer et faire perdurer avec des outils modèles que nous aurons acquis.
Et rappelons donc que ce lundi, ce sont 62 660 jeunes qui feront leur rentrée scolaire en Nouvelle-Calédonie. Coup de projecteur à présent sur la rentrée qui se prépare également, bien évidemment, dans la province des Îles. Depuis lundi, les équipes administratives sont au travail à Lifou, Maré, Ouvéa, mais aussi Tiga. Il s'agit de préparer les établissements scolaires afin d'accueillir lundi quelques 4 600 élèves. Un nombre d'élèves en hausse par rapport à l'an dernier. Alice Wayewol, la directrice de l'éducation, de la formation, de l'insertion professionnelle et de l'emploi à la province des Îles.
Pour cette rentrée, on attend 4 645 élèves dans l'ensemble de la province des Îles, que ce soit public ou privé, dans nos effectifs prévisionnels. On a 2550 élèves sur les fous, 1456 sur Marais et 639 sur Ouvéa. Une légère augmentation. Il faut savoir qu'on a déjà les élèves qui étaient venus en masse l'année dernière chez nous. Certains sont repartis, mais la plupart est restée, quoi. C'était les enfants de la province sud qu'on avait accueillis l'année dernière, dans le primaire et puis dans le second degré, que ce soit public ou privé.
Est-ce que ça veut dire qu'il y a eu des ouvertures de classe ou des fermetures de classe?
Non, il n'y a pas du tout d'ouverture ni de fermeture. C'est simplement qu'on travaille à moyen constant et donc on fonctionne d'un autre taux d'encadrement. Et bien, on va faire un constat réel la semaine prochaine pour voir si on a des classes surchargées ou pas, en fonction de la répartition de ces effectifs dans les écoles.
Des propos recueillis par Kéline Daboakou. J'ajoute que les internes effectueront leur rentrée ce dimanche soir dans les internats de Lifou, de Marais et d'Ouvéa. Si les élèves ont encore quelques jours de vacances, les professeurs, eux, ont déjà fait leur rentrée, c'était ce matin, l'occasion de faire le point avec leur chef d'établissement pour préparer l'année scolaire à venir, Charlotte Coulson.
Oui, c'est un rôle primordial que celui des enseignants, transmettre le savoir à la jeunesse calédonienne, une tâche encore plus importante après l'année mouvementée qu'ont connue les établissements scolaires en 2024, une situation qu'a bien sûr évoqué le proviseur du lycée La Pérouse, Gilles Luquewe, ce matin lors de la réunion de pré-rentrée organisée avec le personnel de l'établissement. Près d'une centaine d'enseignants y ont assisté.
Plutôt content de rentrer, en espérant que c'est une rentrée sereine, comme l'a annoncé le proviseur, par rapport à ce qui s'est passé en 2024. Donc on espère d'avoir une année sereine et partir de bon pied pour qu'on mène nos élèves et nos étudiants à l'excellence, comme l'a annoncé le proviseur.
Il nous a accueillis en nous rappelant ce qu'on a vécu l'année dernière et puis nous expliquant qu'il y a eu pas mal de budgets qui ont été beaucoup réduits et quelquefois qui ne sont pas encore versés aussi. Donc il y aura forcément des répercussions sur la gestion des projets, mais aussi pour les aides qu'ont les élèves, les étudiants. Bon, je pense qu'en ayant vécu ce qu'on a vécu l'année dernière et puis la reprise, tout le monde est dans l'attente et on espère que ça va être une année plus simple. Mais voilà, on a aussi du coup acquis une expérience.
C'est une année nouvelle, c'est une année aussi particulière. Après une année qui a bougé l'année dernière, donc on se prépare un peu à l'avance. Il y a un travail en amont.
Vous avez hâte de retrouver les élèves ?
Hâte de les retrouver, bien sûr.
Et ce sont près de 1600 élèves et étudiants que les professeurs du lycée La Pérouse accueilleront progressivement à partir de ce lundi 17 février.
La rentrée aussi à l'EGC, l'école de commerce et de gestion. 89 étudiants sont inscrits cette année à la Business School. Parmi eux, 30 premières années qui feront leur rentrée ce lundi, Charlotte.
Ils découvriront lors de leur cursus le monde professionnel et entrepreneurial, que ce soit en Nouvelle-Calédonie, en métropole ou même à l'international, car l'EGC a en effet débloqué de nouveaux partenariats avec de grandes écoles, une opportunité pour ces jeunes calédoniens, comme l'explique David Leclerc, le responsable de l'EGC Business School à la CCI.
Effectivement, on a des partenariats à l'international et au niveau national depuis cette année, depuis la fin de l'année dernière, mais effectif depuis cette année, avec des grandes écoles de commerce en métropole, notamment Rennes School of Business, Montpellier Business School et l'IESEG, et également des écoles à l'international comme l'Université de Californie à Santa Barbara et Richmond American University à Londres. Donc les avantages pour les étudiants, ça peut être des bourses d'études, c'est un accompagnement à l'arrivée, des concours qui sont gratuits, du développement de réseaux professionnels et pour certains même des doubles diplômes pour ceux qui l'envisagent.
Et ce stage à l'international peut se faire lors de la deuxième année d'études à l'EGC. C'est un diplôme en 3 ans que propose la Business School, reconnu par l'État et à l'international.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Voici notre question du jour. Comprenez-vous que la province sud soit obligée de réduire les aides scolaires en raison de la situation budgétaire créée par les émeutes? Si vous le comprenez, vous tapez 1. Sinon, vous tapez 2. Vous envoyez votre réponse au 31-46. La réponse à notre question d'hier. 61% des auditeurs d'RRB qui se sont exprimés par SMS pensent que les conditions sont réunies pour que la rentrée scolaire se déroule dans de bonnes conditions. Ils sont 39% à penser que ce n'est pas le cas.
C'était les pages spéciales rentrée avec Bureau Vallée.
La rentrée sans stress, c'est sur le site bureauvallée.nc. Téléchargez votre liste scolaire directement sur le site bureauvallée.nc et notre intelligence artificielle s'occupe de tout. En 3 clics, votre panier est prêt. Livraison ou retrait en magasin, c'est rapide et ultra simple.
Bureau Vallée, on met la barre très haut et les prix très bas.
Il est 18h04, on marque une nouvelle pause dans ce journal. Dans un instant, c'est la suite de l'actualité en Calédonie.
Accueil détendu, équipe dynamique, toujours un sourire au Bilboquet Plage.
En tête à tête ou avec des amis, toujours de la place au Bilboquet Plage.
De la simple salade au saumon fumé, toujours un grand choix au Bilboquet Plage.
Du soleil de midi aux 12 coups de minuit, toujours nous servons au Bilboquet Plage.
Au Palm Beach à Lonsvata, face aux îlots, Bilboquet Plage, un plus pour le week-end.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
RRB, première radio d'information.
La suite du journal, Lionel Sabot.
Actualité économique et les mois se suivent et se ressemblent. L'indice des prix à la consommation continue d'augmenter. L'ISE constate une hausse des prix de 0,7% au mois de janvier. Une hausse qui fait suite à une évolution de plus 0,6% en décembre 2024, Léana Colombo.
Et cette augmentation est principalement tirée par les services, plus 0,8%, où sont compris les transports aériens et les tarifs des assurances santé, qui prennent respectivement plus 7,4% et plus 8,3%. Sur un an, ce secteur a pris plus 1,9%. L'augmentation des prix de l'alimentation s'accélère avec plus 1,5% en janvier, après plus 0,6% le mois dernier. La raison de cette hausse, le prix des légumes qui augmente de 11,4%. On notera plus 5,7% de l'alimentation sur ces 12 derniers mois. Légère augmentation également du côté de l'énergie, plus 0,4% à cause du prix de l'essence. Parallèlement, les prix des produits manufacturés diminuent de 0,3% et ceux du tabac sont stables. Sur un an, l'indice général des prix et celui hors tabac ont augmenté de 1,6%. Les ménages les plus modestes sont ceux qui subissent le plus cette hausse. Sur la même période, l'indice général augmente de 2,5% et l'indice hors tabac de 2,7%.
L'OPT doit recentrer sa stratégie sur la performance des métiers. C'est l'un des points mis en en exergue par la Chambre territoriale des comptes, Jean-François Bodin.
Oui, lors du contrôle qu'elle a effectué et qui porte sur les années 2018 et suivantes, la CTC s'est principalement penchée sur les conditions dans lesquelles l'Office des postes et télécommunications rend les services essentiels pour le territoire dont il a la charge. Elle met trois points en exergue. Le premier concerne la poursuite du plan stratégique de 2021 qui vise à renforcer les directions métiers en tant que centre de profit. Sur ce point, la Chambre des comptes invite l'OPT à fixer des objectifs de résultats financiers par direction. Elle invite l'établissement à se rapprocher de la Nouvelle-Calédonie pour valider formellement sa stratégie ainsi que les modalités de financement des missions d'intérêt général dans un contrat d'établissement. Le deuxième point est une incitation à renforcer le management des risques. La CTC insiste notamment sur la maîtrise des risques informatiques. Elle note en effet que la sécurité du système d'information présente des lacunes en termes de gouvernance, de gestion de projet, de résilience ou de protection physique ou des droits d'accès. Un chantier dont l'OPT est bien conscient, nous a dit son directeur Thomas de Decker.
On parle du risque cyber, c'est quelque chose qui est important. On l'a vu d'ailleurs sur notre filiale au Fratel l'année dernière, je ne sais pas si vous vous en souvenez, qui avait fait l'objet d'une attaque. L'OPT étant l'opérateur stratégique au niveau des télécommunications, il y a un point quand même très important à s'assurer que l'OPT est bien protégé, que ses systèmes d'information sont protégés. Et donc il y a un accent qui est mis sur la nécessité de revoir peut-être notre politique de sécurité des systèmes d'information qui est assez ancienne, il faut qu'on la modernise. Le cadre juridique du risque cyber évolue énormément au niveau européen, au niveau national, et on va avoir des déclinaisons locales. Et donc l'idée du rapport, c'est aussi de challenger sur l'anticipation et les investissements importants qu'il va falloir avoir pour pouvoir prendre en compte le risque cyber et le maîtriser au mieux.
Enfin, dans son dernier point, la Chambre territoriale des comptes invite l'OPT, en lien bien sûr avec le gouvernement, à mener une réflexion sur son statut en prenant en compte l'évolution de l'environnement, notamment après l'examen d'un projet de loi qui autorise l'Internet par satellite, ce qui pourrait constituer une concurrence à l'OPT. La réflexion sur le statut doit aussi porter sur les performances financières des secteurs déficitaires. En effet, les résultats annuels se dégradent entre 2018 et 2023. Le chiffre d'affaires de 23 milliards de francs stagne, alors que l'excédent brut d'exploitation recule en raison notamment d'une hausse de 7% des charges de personnel. Cet audit est toutefois un document précieux, nous a dit Thomas de Decker, car il ouvre des pistes.
C'est et pour l'OPT et pour la Nouvelle-Calédonie un audit qui est très intéressant parce qu'il a des conséquences très pragmatiques pour nous qu'on doit mettre en œuvre, hein, notamment sur la maîtrise des risques. Après, sur le pilotage de cet établissement et la stratégie que peut avoir la Nouvelle-Calédonie sur cet outil, hein, parce que l'OPT est un outil de la Nouvelle-Calédonie, de développement économique, il y a des questions qui sont intéressantes et qu'il faudra à un moment se poser. Donc, il débrousse le chemin, mais reste à la Nouvelle-Calédonie à tracer la route, j'ai envie de dire.
L'OPT a déjà travaillé sur ce rapport de la Chambre territoriale des comptes lors de son dernier conseil d'administration réuni mercredi dernier.
Face à la pénurie de soignants, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie lance un appel à volontaires pour intégrer la réserve sanitaire locale. Depuis la crise de mai dernier, les difficultés de recrutement se sont accentuées. Une pénurie fait craindre une détérioration de la qualité des soins. Comme cela avait déjà été fait lors de la crise Covid, le gouvernement lance donc sa réserve sanitaire locale. Tous les profils sont recherchés. Les explications de Claude Gombet, membre du gouvernement en charge notamment de la santé.
Nous avons actuellement une grosse pénurie de personnel soignant, notamment d'infirmières. Plus de 150 infirmières manquent à nos services et plus d'une centaine de médecins. Tous les personnels, notamment qui sont en retraite, sont les bienvenus. Les corps de métier les plus importants sont surtout les médecins et les infirmiers. Maintenant, nous avons également des besoins en matière de chirurgie dentaire, de masseurs-kinésithérapeutes et de sages-femmes. C'est un des leviers pour répondre à la question de la pénurie. Il y a également d'autres leviers qui vont être actionnés. Hein. Nous sommes en contact également avec l'État pour la réserve sanitaire, cette fois-ci nationale. Et j'envisage éventuellement de me déplacer dans le cadre d'une mission de prospection, directement en contact des facultés de médecine et des IFSI, des instituts de formation.
Et j'ajoute que les personnes susceptibles d'être intéressées peuvent contacter la direction des ressources humaines du gouvernement à l'adresse mail suivante, accrochez-vous, drhfpnc.sgrh@gouv.nc. On va le refaire pour la forme, drhfpnc.sgrh@gouv.nc. Ou pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. En bref, la commune de La Foix a procédé hier soir à son débat d'orientation budgétaire. Dans le contexte économique actuel, l'exécutif municipal annonce vouloir soutenir l'accès à l'éducation et préserver au maximum les services aux familles. La commune annonce que les services périscolaires seront maintenus au même tarif qu'en 2024 jusqu'en juin minimum. Les aides sociales seront également conservées en collaboration avec les partenaires sociaux. Autre priorité, l'activité économique locale avec l'entretien des espaces verts qui seront toujours effectués, mais moins fréquemment. Concernant les routes communales, ce sont en priorité des entreprises locales qui réaliseront la sécurisation des voiries pour soutenir l'économie de proximité. Le conseil municipal de la Foix examinera son budget primitif 2025 lors d'une séance programmée le 20 mars. Le Petit Show annonce son planning des prochaines rotations en raison d'une forte houle demain. Le trajet vers l'île des Pins est reporté au 19 février. Il s'agira d'une rotation express effectuée dans la journée. Dimanche et lundi, ce sera une rotation spéciale pour les deux jours qui relaiera à Nouméa et Ouvéa avec une escale à Lifou. Tous les billets concernés qui ont été annulés à la date du 5 février ont été reportés sur ce nouveau voyage. Une permanence de vente de billets sera réalisée dimanche de 18h à 20h à l'hôtel Le Beaupré à Ouvéa. Notez qu'en raison de tous ces changements, aucun fret ne sera accepté au départ et au retour de Lifou. La priorité étant donnée à la population d'Ouvéa. Enfin, mardi prochain, le Petit Show passera par Lifou et Marais. Toutes les informations sont à retrouver sur le site internet du Petit Show. De nombreux amoureux se retrouvent aujourd'hui, ce 14 février. On fête bien sûr la Saint-Valentin. C'est l'occasion pour les couples de se retrouver à deux autour d'un repas ou de petits cadeaux. Est-ce une fête importante pour les couples calédoniens? Et si oui, comment la célèbrent-ils? Nous leur avons posé la question.
On a pensé à la fête de la Saint-Valentin, donc on a prévu de faire un petit resto ce midi.
On l'a fête, mais à la maison, avec ma femme et mes enfants. Voilà, je vais préparer un bon repas. On a toujours des bonnes attentions, même envers nos enfants. Aussi.
J'ai déjà trouvé le cadeau, donc ça va. En soi, la Saint-Valentin, ouais, c'est la fête des amoureux, mais on ne la fête pas forcément tous les ans.
Non, moi, je ne fête jamais la Saint-Valentin. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait. On n'attend pas la Saint-Valentin pour s'offrir des cadeaux, se dire qu'on est là l'un pour l'autre, donc non.
Oui, j'ai pris une petite bouteille pour ce soir.
Foie gras, il est prévu, ouais.
Voilà, se retrouver, voilà, et puis replonger dans les débuts, les souvenirs, raviver la flamme, bon.
Et pour celles et ceux qui n'ont pas encore trouvé leur Valentin ou leur Valentine, des speed dating ou soirées Saint-Valentin sont organisées dans la plupart des bars et boîtes de Nouméa ce soir. Côté festif, plusieurs événements sont organisés pour ce dernier week-end des grandes vacances. À commencer, Léana Colombo, par une journée portes ouvertes, ce sera demain à l'Art Factory.
Et dès 9h, les Calédoniens pourront se rendre à l'immeuble Cheval au 5 rue Jean Jaurès à Nouméa pour découvrir cette galerie d'art qui propose également des concerts, des spectacles et toutes sortes d'événements créatif. Delphine Mailleux, responsable artistique de l'Art Factory, nous détaille le programme de demain.
On propose des ateliers artistiques en matinée, donc tous les intervenants qui vont travailler chez nous cette année. Donc on va avoir un cours de sculpture avec Jean-Marie Genval, on va avoir un cours de dessin avec Fabian de Art by Fab. Il y aura aussi Jean-Charlie Vert qui va nous parler de l'histoire de l'art. Et il y aura aussi des cours de swing sur le toit terrasse avec Théo et moi-même d'ailleurs, où on va pouvoir donc montrer un petit peu les disciplines qu'on propose pour cette saison 2025. Cette année aussi, on a décidé de donner quelques privilèges aux gens qui sont fidèles, donc carte de membres qui va pouvoir permettre aux gens d'avoir par exemple moins 10% sur tous les ateliers, tous les spectacles qu'on propose, d'avoir une priorité sur la réservation de leur ticket et d'avoir un service sur mesure pour tous ces gens qui fédéreront donc à l'Art Factory.
Cette fameuse carte sera accessible pour 2000 francs par an. La journée porte ouverte débutera dès demain à 9h.
À Nouméa, c'est une brocante un peu particulière qui se déroule ce dimanche en plein centre-ville au 35 Foch, la 4e édition de la brocante tournoi spécial One Piece et Pokémon qui est organisé.
Et oui, un rendez-vous que ne manqueront pas les passionnés de manga. La brocante est organisée de 9h à 17h avec en vente des objets uniques liés à ces licences à succès. Puis de 14h à 17h, place au tournoi de cartes et des tests de connaissances pour savoir si vous êtes un vrai pirate ou un maître Pokémon.
Allez, revenons dans le même espace-temps. À Nouméa, toujours, les lectures à haute voix seront proposées par l'association Livre Mon Ami. Ce sera demain au Kéféri.
L'occasion de partager un moment en famille et de découvrir la sélection 2025 du concours Livre Mon Ami, tout en dégustant des spécialités, puisque ça se passera chez Mr Coffee, un événement organisé de 16h à 17h30.
Merci Léana, il est 18h16, une dernière pause dans un instant, le sport et la météo.
La semaine dernière, j'ai encore passé 3 jours à courir après mes factures impayées.
Attends, mais avec ce Blue, c'est automatique. Tu cliques sur relancer tes factures et paf, toutes les relances partent direct par mail à tes clients. Et si tu veux que certaines ne soient pas envoyées, tu les enlèves facilement.
Sérieux ?
Et c'est aussi simple pour gérer tes stocks, créer des devis, gérer ta caisse. Je te parle même pas des exports comptables.
Mais non ! Faut appeler qui pour une démo ?
Va sur soblue.nc, S-O-B-L-O-O. Et fais gaffe, tu pourras plus t'en passer.
Soblue.nc ? Ok, j'arrive !
Soblue, la solution locale qui révolutionne votre gestion commerciale.
Faire plaisir à votre moitié pour la Saint-Valentin, déclarer votre amour, c'est chez Happy Flower. Rose éternelle, fleurs fraîches, bouquets, toutes vos idées sont chez Happy Flower à Ducos, en face de Bureau Vallée. Téléphone 27 20 80. La Saint-Valentin, c'est chez Happy Flower. RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
La suite d'Info Soirée, c'est du sport, Lionel Sabot.
Et du cyclisme à la une de l'actualité sportive. La délégation calédonienne ne rentrera pas bredouille des Océaniades de cyclisme sur piste à Brisbane. En effet, Kirill Moutry est monté sur le podium de la course au point, Jean-François Bodin.
Oui, le Calédonien a décroché la médaille de bronze, sa première médaille internationale. Il a terminé seulement à un petit point d'un cycliste australien professionnel, Bailey McDonald. C'est un autre Australien, Samuel Washington, qui s'est imposé. Pour Stéphane Coulon, récemment élu président du comité régional de cyclisme de Nouvelle-Calédonie, Kirill Moutry a réalisé un véritable exploit.
Pour une de la sélection calédonienne, c'est un exploit retentissant de voir Kirill obtenir cette médaille de bronze au championnat d'Océanie, parce que le niveau est très élevé. Vous avez la Nouvelle-Zélande et l'Australie qui font partie des meilleures nations en cyclisme sur piste. Ça fait suite déjà à des bons résultats obtenus au Chemin de France en octobre dernier. Cette médaille, en fait, c'est le résultat non seulement du coureur, mais c'est aussi le résultat de toute l'application des gens qui sont derrière pour faire progresser nos jeunes.
Et un Moutry peut en cacher un autre dans cette finale de la course au point où Kirill a terminé sur la 3e marche du podium. Son frère Kyrian a lui terminé à la 12e place. La délégation calédonienne est également composée de 3 autres jeunes pistards. Écoutez Stéphane Coulon.
On a Hugo Pommelet, Louis Chavy et Hervé Salin, qui ont tous d'ailleurs pour l'instant plutôt couru très honorablement. À chaque fois avec des places d'honneur au niveau où on peut voir les coureurs étrangers sur la zone océanienne courir. Je trouve que voir nos jeunes se confronter à ce niveau-là et avoir des résultats plutôt honorables est encourageant pour l'avenir.
Et les Océaniens en Australie, Océaniens de cyclisme sur piste, pardon, se poursuivent jusqu'à demain soir.
Allez, ouvrons à présent, Jean-François, l'agenda sport de ce week-end dans le monde et en métropole. On va commencer avec du football et la 22e journée du championnat de France de Ligue 1.
Oui, demain matin, Brest recevra Auxerre au stade de Francis Leblay, pardon, dans la nuit de samedi à dimanche, à suivre Marseille-Saint-Etienne, Monaco-Nantes et Toulouse-Paris-Saint-Germain. Cette journée se terminera lundi pour nous avec 5 rencontres, Montpellier-Lyon, Lens-Strasbourg, Le Havre-Nice, Reims-Angers et Rennes-Lille. Les sports co toujours avec le rugby. Le tournoi Destination fait une pause et se met en congé en cette fin de semaine. Mais le top 14, le championnat de France élite, reprend ses droits. À suivre donc la 16e journée de cette compétition avec dimanche matin pour nous Bayonne-Bordeaux-Bègle, Lyon-La Rochelle, Racing 92 Vannes, Stade Français-Pau, Perpignan-Castres et Montpellier-Toulon. Le dernier match de cette 16e journée se jouera lundi matin pour nous. Ce sera une confrontation entre Clermont et Toulouse. Au chapitre sport mécanique maintenant. À suivre pour ce week-end le rallye de Suède, 2e manche du championnat du monde. À l'issue de la première spéciale disputée la nuit dernière, c'est le Britannique Elfyn Evans sur Toyota qui est en tête du classement général. Il dévance de 5 dixièmes de seconde son coéquipier, le Finlandais Kalle Rovanperä et l'Estonien Ott Tänak. Le Français Adrien Fourmeau sur Hyundai est 4e avec 7 dixièmes de seconde de retard sur Elfyn Evans. Quant au champion du monde en titre Thierry Neuville, il pointe à la 5e place à 2 secondes et demie du leader. On va terminer avec les sports d'hiver. Il faudra suivre ce week-end la suite des championnats du monde de ski alpin et la suite des championnats du monde de biathlon. En biathlon, ce soir, le sprint dames couru sur 7 500 km. Les messieurs, eux, disputeront le sprint sur la distance de 10 km. Ce sera dans la nuit de samedi à dimanche. Les épreuves de poursuite se disputeront dimanche soir. Et puis, ski alpin à suivre ce soir, le slalom géant messieurs. Demain soir, pour nous, le slalom dames. Ces championnats du monde de ski alpin se termineront dimanche soir pour nous avec le slalom messieurs. Voilà, j'ai franchi la ligne d'arrivée.
Et nous terminons ce journal avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Bon, a priori, pas de neige au programme pour ce week-end. Vous avez quand même un peu de soleil à nous...
Oui, pas trop quand même. Ah ben voilà. Demain matin, oui, mais cette nuit, la perturbation pluvieux orageuse se décalera progressivement vers l'est et les loyautés. Ailleurs, les pluies encore fréquentes en début de nuit s'estomperont et deviendront rares en fin de nuit. Sur Ouvéa, le vent de nord-ouest sera encore proche de 20 nœuds avec des rafales à 35 nœuds en début de nuit. Sur la pointe nord et l'Ifou, le vent se maintiendra autour de 15 nœuds de secteur ouest en début de nuit. Il s'orientera ensuite au secteur sud sud-est proche de 10 nœuds. Ailleurs, le vent soufflera au sud-est entre 15 et 20 nœuds avec des rafales possibles de l'ordre de 30 nœuds sur le sud-ouest. Les températures minimales seront stables en général, comprises entre 21 et 25 degrés et localement en baisse aux loyautés avec 18 degrés attendus à marée. Demain matin, sur le nord-est, l'extrême nord et le nord des loyautés, quelques averses persisteront sous un ciel souvent très nuageux. Ailleurs, le temps s'améliorera nettement. Le ciel sera peu à peu nuageux, même si de rares et faibles averses seront encore possibles sur le sud-ouest. Le vent de sud à sud-est soufflera généralement autour de 15 nœuds, localement proche de 10 nœuds sur le nord-ouest et les loyautés de l'ONN.